Marie Webb, Le précieux fléau, livre 3, chapitre 3, La plus belle écriture. Je peux dire que je franchis la distance qui me séparait de la ville plus vite qu'on ne le fait habituellement sur un si long trajet. J'avais caché le couteau dans la haie, par peur de trébucher dessus. Chez l'apothicaire, c'était ouvert, comme je l'avais supposé, parce qu'il était bedeau et ne pouvait contrarier le pasteur. Les grandes bouteilles rouges et vertes ne m'étaient jamais apparues aussi jolies. C'était comme si elles avaient été remplies de l'eau de rivière du paradis. L'intérieur était agréablement sombre, parce que la petite fenêtre était elle-même encombrée de pommades, de médicaments, de purges pour chevaux, de simples pour les vaches, d'emplâtre, de remontants, de brassées d'herbes qu'on ne pouvait même pas voir. Il y avait une délicieuse odeur de menthe poivrée, d'herbes et de savon. L'apothicaire me regarda gentiment par-dessus ses lunettes et me demanda quel était le problème. « Oh, un meurtre, monsieur. Ou tout comme, dis-je. Je vous supplie de fermer votre boutique et de venir. Sinon, un homme tel que la ville n'en a pas encore vu et n'en verra jamais plus sera mis à mort. » À ces mots, cet homme de bien enfila ses bottes. « Quel genre de remède dois-je prendre ? » me demanda-t-il. Vous me raconterez la suite sur le chemin. » Je lui répondis qu'il fallait quelque chose contre les morsures du chien et quelque chose pour rétablir un homme près de la mort. Une minute après, il avait mis son chapeau et nous étions sortis. « Prenez une gorgée de brandy, dit-il, vous êtes épuisé. » Mais je refusai. Il lui dit que si je ralentissais en route, lui devrait continuer de se dépêcher pour arriver à la reine au plus vite. Je ne ralentis, en fait, qu'à l'endroit où se trouvait le couteau, pour m'en saisir, puis je rattrapai l'apothicaire à la barrière de la prairie. Comme nous y entrions, je vis une horrible lutte s'engager, et il était vraiment temps d'arriver. Tous les chiens étaient passés, sauf celui de Grimble. En approchant, nous entendîmes une clameur. Kester venait d'attacher le chien à la chaîne. Puis il y eut un autre tumulte dans la foule, et je vis, ô mon pauvre amour, que le chien avait saisi la gorge de Kester. J'attrapai l'épaule de Grimble et lui dis « Rappelez votre chien !» Grimble ne bougea pas. Une seconde de plus entre ses crocs, et celui que j'aimais si chèrement serait mort et froid. Je fonçai en avant, et moi, qui n'ai jamais intentionnellement fait de mal à aucune créature vivante. Je courus sur la grosse bête hargneuse qui ne lâchait pas la gorge de mon maître et lui plantai le couteau en plein cœur. Le sang jaillit et le corps lourd s'effondra d'un coup, entraînant Kester avec lui. Après avoir écarté les mâchoires du chien, je tirai Kester plus loin. Il semblait ne plus y avoir de vie en lui. « De l'eau !» criai-je à Huglet qui se trouvait le plus près. « Va chercher de l'eau, espèce d'assassin !»« Du brandy, monsieur Camelot, s'il vous plaît. » Il se tint au-dessus de Kester. « Je dois brûler la morsure, dit-il. Mieux vaut le faire avant qu'il ne retrouve ses esprits. Mais comment chauffer le fer ?» Je me levai. Je ne craignais plus personne. Ces gens n'auraient pas pu être plus effrayés si j'avais été une reine sanguinaire. « Que six hommes trouvent du bois, et en vitesse !» « Et vous, Grimble, trouvez un briquet. »«
J'en ai pas, grommela-t-il. »«
Trouve-en un, » hurlai-je, comme une sauvage en pointant mon couteau. « Trouve-en un, sinon. » Le feu s'embrasa plus vite qu'il n'est possible de le dire. Nous versâmes un peu de brandy dans la gorge de Kester pour lui garder une étincelle de vie. Puis M. Camelot brûla la morsure. Et Kester se réveilla dans un hurlement terrible. Car, si près qu'il était de l'engourdissement de la mort, il ne pouvait s'être préparé à une telle douleur. « Allons, allons, mon chéri, » dis-je, car son cri de détresse m'avait transpercé le cœur. « Là, là, c'est fini maintenant. Personne ne te touchera plus. » Monsieur Camelot banda sa plaie, et je lavais son visage avec de l'eau froide et lui donnais plus de brandy. « La plaie n'est pas profonde, » dit Monsieur Camelot. Nous sommes arrivés juste à temps. Sûr, on ne pouvait qu'être là à temps, dis-je. Je suis son ange gardien aujourd'hui. Et après cela, la prairie verte se mit à tourner devant moi, et je m'évanouis. Quand je revins à moi, Gédéon et Jancy s'étaient assis sur l'herbe auprès de moi, et tout le monde était parti. « Où est-il » demandai-je.
« Qui ? Le tisserand ?»
répondit Jancy. « Il va bien, et on s'occupe de lui. Ils l'ont ramené à Lullingford et Madame Callard restera avec lui. »
Elle est rudement contente à propos du petit taureau, dit Gédéon. T'as sauvé la vie de ce gars, pour sûr, Prou. J'ai rien vu de pareil. On venait juste d'arriver à la barrière du pré, et voilà que je te vois. Nom de nom, que je me dis. J'ai rien pu dire d'autre. J'ai couru, Jancy aussi, mais t'avais fait l'affaire du chien avant qu'on arrive vers toi. Tu mérites une médaille, Prou.
Tu peux pas rentrer à poney chez toi, Prou, s'inquiéta Jancy. Dis, Sarne, si je courais demander à Miner de la prendre, et je pourrais revenir l'aider dans son travail un jour ou deux.
Tu peux bien demander à Miller, merci. C'est une bonne idée. Mais pour ce qui est de revenir, c'est bien que t'es la servante de Grimmel maintenant. Et pour 3 ans.
C'est pas moi qui l'ai voulu. C'est père et toi qui ont fait de moi sa servante.
Oui, mais t'as vu la maison, pas vrai? Tu vas travailler pour ça, et pour le bal des chasseurs, et pour la vaisselle en argent.
Oui, j'ai vu la maison. Et je trouve que l'endroit fait vieux, sombre et triste, même si la bâtisse est neuve. Et je préférerais pas de bal.
S'il faut, pour ça, être une esclave.
Elle se mit à pleurer. Mais cela n'influença nullement Gédéon.
Il te faut aller chez le Grimbal. De même que tu iras au bal des chasseurs quand le temps viendra. Alors pourquoi faire tant de tintouin?
Et pourquoi est-ce que je dois y aller, Sarne?
Parce que c'est ce que j'ai décidé, répondit Sarne.
Il le disait presque de la façon qu'il aurait dit,
parce que c'est prévu comme ça.
C'était comme si sa fiancée lui demandait de venir danser pour les fêtes de mai. Mais qu'il était, lui, pieds et poings liés. Quand elle partit, on me donna du thé au pichet de cidre, parce que j'étais encore toute tremblante. Puis Miller m'aida à grimper dans la carriole, et le vieux cheval de diligence qui avait connu le son joyeux de la corne, la pleine lumière et l'excitation des grandes routes, se mit à partir au petit trot. Car il semblait avoir pris l'humeur de Madame Miller, et ne se préoccupait guère de retrouver la maison. Madame Miller n'avait rien à dire, et Miller non plus, comme d'habitude. Quant à Polly, elle dormait. Quelques instants plus tard, Madame Miller et Tim en firent autant. Nous avancions tristement par une soirée froide. C'était le crépuscule, puis vint la nuit. Gédéon était loin devant, parce que Bendigo, malgré son âge, était un bon trotteur. Le poney du moulin, attaché à l'arrière de la carriole, avançait en clopinant, ce qui rendait un son triste. Ce silence et cette mélancolie me convenaient, puisque j'étais moi-même triste et silencieuse. Celui que j'aimais avait mal, et je ne pouvais aller vers lui. Il était couché, aussi faible qu'un bébé, et il y avait seulement Madame Callard pour s'occuper de lui. J'en oubliais qu'ayant 6 enfants, elle savait fort bien s'occuper de personnes fragiles et démunies, car c'est bien une tendance chez les amoureux que de croire que seules peuvent venir en aide à leur bien-aimé. Certes, il y a un peu de vrai là-dedans, et même peut-être plus qu'un peu. Nous cheminions lentement, au travers d'une campagne, ni vallonnée, ni vraiment plate, par une nuit, ni sombre, ni éclairée, nous sentant ni contents, ni désolés. Je m'imaginais que nous étions emmenés pour une région au-delà du monde, qui ne serait ni l'enfer, ni le paradis. Nos 6 têtes, en comptant celle du canasson, se balançaient en cadence, et je nous croyais tous endormis. Même le vieux cheval de diligence, lorsque le meunier parla, à travers son sommeil, semble-t-il.
« Je peux pas les supporter, » formula-t-il, avec un petit hochement de tête vers sa femme et ses enfants. « J'aimerais bien que ce soit des petits chats pour les noyer dans la mare du moulin. J'aimerais que le monde entier soit un petit chat. » Il n'ajouta rien de plus. Ce fut comme quand on récite au rideau, solennel et houleux. Et voilà tout ce que le meunier m'eût jamais dit, et je pense que c'était dans son sommeil. Nous trottâmes encore jusqu'à ce que nous atteignîmes le moulin sombre et l'eau silencieuse de la mare qui ressemblait à un crêpe lisse et noir. Madame Miller et les enfants descendirent et détachèrent le poney, et Miller me reconduisit à Sarne. La nuit était pleine d'une odeur d'eau et de mousse, avec ici ou là une bouffée de senteur de primevère. Je songeais à la maison du tisserand, qui semblait être sortie de terre comme par un sortilège, et à lui, couché là dans sa cuisine, avec le métier à tisser qui lui barrait le visage de raies d'ombre, projeté par la lumière du jour. Les cheveux mêlés et trempés de sueur, tant il souffrait. Je me disais que si Madame Callard ne lui avait pas parlé gentiment, je taperais son bébé. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas. C'était une bonne âme, même si j'ai toujours pensé qu'elle avait l'esprit comme un coquillage, cru, qui restituait l'écho d'autres esprits, ce qui était bien le cas. Quand nous fûmes chez moi, Mère était sur le seuil, très inquiète. Elle me dit une chose que personne d'autre n'avait dite et à laquelle je n'avais pas même pensé. « T'aurais pu te faire tuer, Prou !» Elle s'assit et se mit à pleurer. Si bien qu'il me fallut la taquiner un peu et lui demander quelque chose à manger pour lui montrer que j'étais vivante et bien portante. Alors elle me fit un repas, comme jamais on en a eu, bien qu'elle aurait dû être couchée depuis longtemps. Apparemment, Gédéon lui avait raconté l'histoire, mais elle voulait en savoir plus. Longtemps insatisfaite, elle continua de réclamer des détails. Puis elle mit ses lunettes et me considéra attentivement, assise là, dans la grande chaise en chêne. J'étais un peu gênée par cette façon de m'observer, qui était celle d'une poule couveuse quand quelqu'un vient l'épier, et qu'elle ne bouge ni une aile ni une plume, l'air de dire « Je veille sur ce qui est à moi. » Mère semblait regarder derrière moi quelque chose qui m'effrayait. C'était peut-être mon destin, comme elle croyait qu'il serait. C'était quelque chose qui menaçait de me faire souffrir. J'en étais persuadée, car après un petit moment, elle parut moins à l'aise, et se redressant sur sa chaise, elle me dit du ton de quelqu'un qui ne veut pas qu'on le lui interdise. « Nous l'aurons, ce tisserand. » Elle ne fit aucun commentaire sur ce que je lui avais dit, pas un mot du genre que cela avait été une folie de sauver la vie d'un jeune homme étranger sans la permission de personne. Elle ne faisait que continuer à hocher la tête de temps à autre en disant « Oh, que vienne été, et nous aurons le tisserand. » Puis elle exprima l'envie d'aller se coucher et je suis partie écrire dans mon cahier. Il n'y eut pas de changement dans notre vie, sauf que les dimanches étaient plus maussades sans la venue de Jancis. Elle manquait aussi à la maison de Pierre, qui paraissait plus solitaire sans elle, et Madame Begindi n'était plus que la moitié d'elle-même. Elle s'accrochait à moi et ne cessait de raconter les petites manières et les dires de Jancis comme si elle était morte. Ce qui irritait beaucoup Begindi, parce qu'à vrai dire, lui aussi était désolé du départ de Jancis. Pas seulement à cause du jeune châtelain, mais parce que, à sa façon malhabile, elle fournissait tout de même une bonne dose de travail. Il avait coutume de rétorquer. « Maintenant arrête tout ce bruit, femme. La fille sera de retour très vite avec 20 livres dans la poche, ma chère. Alors cesse de parler d'elle comme si elle était morte, pauvre folle. Une éclatante jeune fille, voilà ce qu'elle est. Et de ses livres d'or, elle nous en donnera. » Dès qu'elle apprendra où est son devoir et qu'elle cessera de courir après un homme né sous la planète de Katsu et qui viendra à mourir noyé. Sans t'offenser, Prou, et sans que je le veuille, tu as rudement bien labouré la partie difficile, Prou. Et si tu veux, on va faire des mots de 4 syllabes. Ah, sans aucun doute. Begindi était un vieil homme très étrange. Mon opinion était que, s'il avait eu une bonne éducation, il aurait pu être l'un de ces hommes renommés dont on fait grand cas, un savant, un musicien, un auteur ou un prêcheur. Et peut-être que s'il avait utilisé convenablement l'ensemble de ses facultés, il n'aurait pas amené la ruine sur lui-même, comme il le fit.
Ah, et ce ne fut pas seulement sur lui-même.
Mais de cela, nous ne savons rien, au juste. Nous sommes les marionnettes de celui qui nous a fait, me semble-t-il. Il nous sort de la boîte et dit « danse maintenant », ou il nous enjoint de faire une révérence, un signe de la main, de tomber dans les pommes. Puis il nous remet dans la boîte quand la pièce a été jouée. C'est peut-être un jeu de mime, une scène de Noël ou de Pâques, ou bien une tragédie. C'est selon ses désirs. La pièce est son œuvre. Ainsi les méchantes marionnettes font sa volonté, aussi bien que les bonnes, puisqu'elles jouent ce qui leur est imparti. Que se passerait-il si le spectacle arrivant au moment où l'homme méchant doit faire sa vénénie, le voilà qui est à genoux en train de prier? Le drame alors serait mal engagé. Il y a bien eu cette marionnette nommée Judas, et si de frayeur il s'était enfui, aucun d'entre nous n'aurait pu être sauvé. C'est là un mystère déconcertant, et qu'on ne peut réellement comprendre. Mais le fait est que, selon moi, on a tort de blâmer trop durement les malfaiteurs. C'est un terrible destin que celui qui vous oblige à mal agir par malédiction, alors qu'à l'évidence, personne ne choisirait cela. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, est-il dit. Note de la traductrice. Il s'agit d'un verset de l'Évangile de Matthieu. En effet, comment l'archange Gabriel aurait-il pu montrer son habileté avec l'épée à deux tranchants si Lucifer n'avait pas voulu se battre? Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive, est-il dit aussi. Note de la traductrice, suite du verset précédent. Et donc c'est dans le drame qui est joué, il y a un meurtre, ou une femme droite, acculée à la honte. On doit trouver une marionnette pour faire le sale boulot. Bien que vraisemblablement, aucune d'entre elles, si elle pouvait choisir, ne voudrait dire autre chose que « non, pas moi, maître ». Seulement elles ne sont au courant de rien. Parce que je pense, moi, que nous ne sommes guère différents des bêtes, qui commettent des crimes dans l'obscurité de leur esprit, privés de connaissances, trempant dans le sang, toujours à l'affût, pour sauter sur leur proie, avec des cris affreux dans la nuit, et qui cependant sont, dans le même temps, aussi innocentes que des bébés. Je pense aussi que nous ne sommes pas très différents des orages qui détruisent des forêts, des feux insatiables qui dévorent des vies en un instant, ou des eaux qui emportent nos proches sur leur passage. Tout cela fait partie du drame qui est joué. Pourtant, si nous sommes choisis pour un beau rôle, combien devrions-nous être reconnaissants, offrant nos louanges et aidant les moins chanceux, et même leur être reconnaissants à eux aussi, pauvres marionnettes qu'ils sont, à œuvrer nuit et jour à notre destruction. Car cela aurait pu être l'inverse. Si bien qu'en dépit de tout, j'ai toujours eu de la peine pour Begidi, bien que, mon chéri le sait, il fut le méchant de notre histoire. Cet été-là, les récoltes de céréales et de foin furent médiocres. Nos vies se déroulèrent sur le même mode, sans changement, à part que mère était heureuse. Elle tint parole et envoya chercher Kester. Je ne m'étais pas aperçue qu'elle avait filé plus qu'à son habitude en ce mois de juin, jusqu'à ce que même Gédéon lui en fît compliment. Puis un jour elle dit « Il y a tant de chanvres filées que je serais obligée d'appeler le tisserand. » Mais j'étais résolue à ne pas le voir. Aussi, le jour où il devait venir, vers la fin de la venaison, je pris la serpe pour aller m'occuper des haies qui entouraient les champs les plus éloignés, où personne ne me trouverait. « Je vais tailler les haies, mère, lui dis-je. Je prends du pain et du fromage. Est-ce que tu peux t'occuper des jeunes dindons ?» Il demandait à Gédéon de prendre le tour pour traire les vaches, parce que je ne reviendrai que le soir. et la voilà qui recommença à se tordre les mains, répétant continuellement, sans reprendre son souffle, « Oh, quel dommage que ce mauvais sort !» Mais je partis. Quand je revins à la maison, je trouvai dans le grenier des petits bouts de laine et de fil qu'il avait laissés, et une agréable odeur de tabac, car il aimait fumer un peu quand il travaillait. Et juste sur un coin du métier d'essai, devinez sur quoi je suis tombée. Eh bien, sur un mouchoir bleu et blanc, que j'ai, fort peu honnêtement, placé dans mon coffre, dont j'ai tourné la clé avec beaucoup de satisfaction. Je me disais bien, dans une forme d'exultation, qu'un jour, je le laverais, et qu'enroulé autour d'un brin de lavande, je le lui rendrais. Mais pas tout de suite. Mère eut beaucoup de choses à raconter sur le tisserand. C'est qu'il était un homme si gentil et fort et plein de prévenance. Je me disais que tout cela je savais déjà. Elle ajouta qu'il s'était comporté avec elle comme un fils et qu'il aurait fallu le voir assis sur le banc pour son thé. J'avoue que je pensais que mon cœur en aurait été plus perdu que jamais. Il voulait savoir si j'avais un autre enfant que Sarne, poursuivit mère. Aussi je lui ai dit.
Oh, mère, qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai dit que j'avais la meilleure fille du monde,
qu'elle était très gentille pour sa mère, qu'elle avait une taille souple et lancée, une longue tresse soyeuse qui lui descendait jusqu'aux genoux, de couleur foncée, ce qui allait vraiment bien avec ses yeux, qu'elle était d'humeur agréable, joyeuse et taquine, et qu'elle avait pitié des autres.
Mais c'est que je lui ai tout dit, même que tu connaissais l'écriture grande et petite et que Begigli t'apprenait à lire. Et que maintenant, t'en étais au mot de quatre syllabes.
Voyons, mère, dis-je, quel conte tu as inventé là? Pas un conte, ma chérie, que la vérité.
As-tu parlé des lettres de Gédéon? As-tu dit que je les écrivais?
Pourquoi? Mais non, Sarne n'aurait pas aimé, ni Jancis, ni toi.
C'est vrai, tu es pleine de bon sens, mère.
C'est ce qu'on a toujours dit dans la famille, ma chérie.
Alors, repris-je, le tisserand pense, sans aucun doute, que nous sommes une famille éduquée, et il lui paraît très certain que Gédéon écrit ses lettres. Plus tard, après l'avoir aidé à se coucher, je pris le courage de lui demander. As-tu dit au tisserand que j'avais un bec de lièvre?
Mais non, mon chéri, pourquoi l'aurais-je fait?
C'est que il aura une petite idée sur moi avec tout ce que tu lui as raconté. Et alors si un jour il me voit, eh bien s'il te voit, ma chérie, tel que je le connais, il t'aimera tout pareil, dit mère, avec assurance. Au moment où je l'abordais, elle me prit la main et me dit, « Prou, ce serait un problème pour toi, s'il n'avait qu'une jambe ou qu'un bras, ou s'il était tout grêlé par la petite vérole. »
« Un problème, voyons mère, m'exclamai-je vivement, sans réfléchir.
Bien sûr que non. Je l'en aimerais que plus.
Je le savais bien, répondit mère d'un ton satisfait. Je savais que tu aimais cet homme, et j'en suis vraiment contente. Maintenant, ne te cache pas de lui, Prou. Sois pleine d'audace, et risque tout, comme un bon joueur au jeu des couleurs précieuses.
Non, non, je ne le pourrais pas.
Oh, mère, ce n'est pas gentil de m'avoir attrapée comme ça.
Je voulais seulement savoir, Prou. Je deviens vieille et fatiguée, et le temps approche où la vie me deviendra un lourd fardeau. Il me fallait savoir s'il y avait du bien en réserve pour la meilleure des filles.
Elle ouvrit les yeux et regarda au loin, au travers de la petite fenêtre éclairée par la lune, où se pressait contre la vitre une tache sombre, qui n'était autre qu'un buisson de roses rouges. Par cette fenêtre, le ciel d'argent sans étoiles rayonnait de douces façons. Et mère semblait y écouter quelque chose, puis elle déclara.
« Je sais que tout ira bien pour toi, Prou. C'est venu sur mon cœur comme la fraîcheur de la rosée et comme le velouté d'une rose rouge, que tu seras aimée et que tu aimeras. »
Quand je serai plus là, cependant, quand je serai plus là. Mais qu'importe, puisque je sais que ça viendra. »
Je sentis un frisson d'étrangeté traverser la nuit.
« Que se passe-t-il, mère chérie ? » demandai-je. « C'est le don de double vue ?»«
Non pas, je vois rien. Mais je sens la chose en moi. »«
Te sens-tu bien, mère ?» demandai-je. « Car j'avais peur qu'elle me glisse entre les doigts, puisque la mort se présente ainsi souvent. »
Mais elle me répondit qu'elle se sentait bien, dans sa santé ordinaire, et pas prête de mourir avant un bon nombre de jours.
Seulement cela lui était venu quand elle avait pensé au tisserand et à ce qu'il lui avait dit.
« Certes, je suis seule, et seule je resterai, je pense, » avait-il dit. « Mais si je devais me marier, ce serait avec une femme telle que votre fille. »
Quand la moisson de blé fut terminée, Gédéon me demanda d'écrire sa seconde lettre pour Jensis, au moment où nous étions en train de souper sur le banc placé sous la fenêtre de la laiterie. Quand nous eûmes fini, j'allai chercher l'encre et lui demandai ce qu'il voulait que j'écrive. Alors il me dit que je devais écrire qu'il allait bien et espérait qu'elle aussi, et qu'elle devait être une bonne fille, dure à la tâche et ne pas demander une avance sur ses gages pour des vêtements ou des chaussures, mais qu'elle devait penser à tout notre avenir, qu'ici la moisson n'avait pas été très bonne et que son père restait dans les mêmes intentions à propos du jeune châtelain, lequel allait revenir de Low Countries l'année prochaine, les poches pleines d'argent, et que la grosse vache Longhorn avait vêlé, mais qu'elle avait abandonné son veau comme une sotte qu'elle était, et aussi qu'il fallait dire à M. Crimble que lui, chez Léon, voulait bien quelques agneaux au moment où on les ramène des collines pour l'hiver, mais à condition que les agneaux n'aient pas trace de piétin, sinon Gédéon les renverrait de suite, et ne ferait plus affaire avec lui. Gédéon ajouta, « Écris aussi que j'irai au marché de Noël pour la voir, si Grimble voulait bien l'amener. » Je lui répondis que je ferais de mon mieux, et lui demandai si ça le dérangeait que j'en dise un peu plus. Et je ne pus m'empêcher de rire, car cette lettre d'un gars pour sa bien-aimée paraissait tellement singulière. Gédéon leva les yeux brusquement et me demanda pourquoi je voulais en écrire plus. Je répondis qu'une fois lancé, le stylo courait quelquefois vers autre chose. Alors il dit qu'il supposait que ce ne devait pas être facile de savoir à quoi s'attendre quand on commençait à écrire, et que Dieu le préserve de pareille absurdité, et que du moment que j'écrivais tout ce qu'il m'avait demandé, je pouvais ajouter ce qui me faisait plaisir. C'est ainsi que j'écrivis cette lettre. Sarne, 26 septembre. Ma bien-aimée chérie, le temps m'a paru long depuis ta lettre, qui était si belle et que j'ai embrassée plusieurs fois. Tu sais très bien écrire une lettre d'amour. Je m'imagine, vous deux, en train de la faire, ta chevelure d'or qui brille et ton beau visage penché, et le tisserand souriant. Et paraissant amusé avec ces yeux-là qui pourraient éloigner n'importe quelle fille de son fiancé. Alors, si possible, fais attention de ne pas tomber amoureuse d'un autre que moi. Je te verrai peut-être au marché de Noël. Dis au tisserand que tous les discours de mère sur notre proue, c'est que de l'imagination, parce qu'elle est ordinaire sur tous les points. Demande à M. Grimble quelques agneaux pour moi. Préviens le tisserand que s'il s'approche de chez Huglet, il pourrait tout aussi bien prendre son fusil, parce que Huglet vient d'acquérir un horrible chien. Et j'espère que tout va bien entre le tisserand et Grimble. Si le tisserand avait un peu de couture à faire, m'étant seul et sans femme, j'ai deux femmes chez moi, ma mère et ma sœur, qui seraient bien contentes de faire du travail à un prix honnête. Elles pourraient vendre à moitié du prix du marché, du chou rouge mariné et des pâtes de quetsch qu'elles ont confectionnées. Et ce serait bien charitable de les employer. La récolte a été médiocre. La vache a abandonné son veau. Le jeune Camperdine est attendu pour l'année prochaine. Oh, pour les agneaux, s'ils ont le piétin, je les renvoie vite fait. Et maintenant,
Au revoir et prends soin de toi. Si tu as un rhume, dès le début, prends du citron et des brisures de gâteau de miel chauffé. Et tu es mon amour, mon très cher amour, avec qui je voudrais passer ma vie, et pour qui je pourrais mourir, d'une morsure de chien ou d'autre chose, ma chérie. Bonne nuit de celui qui t'aime. Gédéon Sarne. Postscriptum. Voici un beau texte. Le maître doit venir. Fin de la lettre. Je me suis souvent demandé au cours de l'automne, pendant les nuits froides, ce qu'ils avaient bien pensé de ma lettre. Nous savions qu'ils l'avaient reçue. Parce qu'un jour de marché, Gédéon revint avec des agneaux que Grimble avait placés dans un enclos près du pichet de cidre. Et c'étaient de beaux agneaux, sans trace de piétin. Cependant, ce ne fut qu'à l'approche de Noël que nous parvint la lettre de Genesis, et je me souviens que je la lus à Gédéon par une nuit déchaînée, avec de la pluie cinglant les vitres, tandis qu'à l'intérieur régnait une douce chaleur. Cela me fit passer un bon Noël, en dépit du travail, et de mère très souffrante, au point qu'il nous fallut envoyer chercher l'auxiliaire du médecin jusqu'à Silverton. Gédéon, ne voulant pas entendre parler du médecin lui-même, à cause de la dépense, qui était déjà assez importante. Il ne cessait de marmonner, disant que mère était un fardeau, et là-dessus, mère qui me demandait « Est-ce que Sarne pense que je suis un fardeau ?» Aussi était-ce très embarrassant pour moi. Mais cette lettre me réconfortait, comme une assiettée de bonne soupe chaude. Et avant que Gédéon ne la prenne pour la conserver pour lui-même, j'en fis une copie, que voici. La Haute Ferme, Outrac, 1er décembre. Mon plus cher ami, en écrivant ceci, je pense à Sarne, comme au meilleur des amoureux. Monsieur Woodseeves serait bien content de la couture, des pickles et de la pâte de quetch. C'est gentil, Sarne, d'y avoir pensé. Peut-être que tu pourras le dire à ta sœur un de ces jours. Monsieur Woodseeves dit qu'il n'a jamais eu meilleur remède pour guérir d'un rhume. Il l'a essayé, après être rentré d'ici à Lullingford, par une nuit pleine de brouillard, même s'il est persuadé qu'il aurait fallu une femme pour faire le mélange correctement. Il est désolé pour la récolte et le veau, mais il ne se tourmente pas pour le chien de Huglet, n'ayant peur d'aucun chien, ni de Huglet non plus. Quoique il s'en était fallu de peu lors du combat, sapristi. Et la femme avait été bien courageuse pour s'être précipitée dans une telle situation afin de sauver le pauvre homme qu'il était. Parce que M. Woodseeves a entendu dire que c'était une femme qui l'avait fait. Une grande femme mince avec de beaux yeux noirs, lui a-t-on précisé. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit, comme tu le sais, Sarne. Mais d'autres en ont parlé. Le tisserand dit que si jamais il devait se lier à quelqu'un, il aimerait que ce soit avec une personne comme elle. Alors, bonne nuit et joyeux Noël de Genesis Begindi. Postscriptum. Je suis déjà amoureuse de toi, et si pareille chose arrive dans la saison des arbres nus, qu'arrivera-t-il en la saison où ils reverdissent? Fin de la lettre.